Paris 2024, rencontre avec Marine Gargagli et Dominique Hernandez, l'apport scientifique dans le coaching sportif. L'apport scientifique dans le coaching sportif. Nous rencontrons Marine Gargagli, accompagnatrice scientifique de la performance au Krebs de Toulouse, et Dominique Hernandez, cadre technique en athlétisme. Dans cet entretien, nous expliquons par des exemples concrets les utilisations possibles de la science dans l'optimisation de la performance. Quelles peuvent être l'utilisation des données scientifiques dans le coaching sportif ou comment la science peut répondre aux questions d'un entraîneur sur le terrain?
Je m'appelle Marine Gargagli, je suis accompagnatrice scientifique de la performance au Krebs de Toulouse.
Comment vous êtes venue à vous intéresser à la recherche scientifique dans le sport?
Moi, j'ai fait un parcours STAPS, donc j'ai fait un parcours à Toulouse, ici, en entraînement sportif. Et en réalité, STAPS, c'est une filière où il y a beaucoup de sciences, beaucoup, beaucoup, dès la première année. Et on s'oriente après, au fil des années, sur des thématiques qui nous intéressent. Mais en master, c'est vrai que la recherche et l'accompagnement scientifique est quand même quelque chose de prégnant. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était le côté dans l'accompagnement scientifique que... Je n'oppose pas forcément, mais qu'en tout cas, je diffère de la recherche, c'est que c'est quelque chose de très appliqué. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'était de faire quelque chose de contextualisé, de répondre à un besoin qui était clair, qui était précis et qui était réel. J'ai l'impression de faire quelque chose, entre guillemets, plus palpable.
Est-ce que vous pouvez dire votre passé de sportive?
Moi, j'ai fait du judo pendant toute mon enfance. J'étais ceinture noire de judo, où j'avais un bon niveau régional. Et après, toutes mes années STAPS, j'ai fait de l'haltérophilie. Et je suis passée par le pôle qu'il y avait ici, où j'avais un bon niveau national, mais je n'ai jamais été athlète internationale. Alors, une accompagnatrice scientifique, mes missions résident dans plusieurs objets. Le premier, c'est questionner les entraîneurs sur les thématiques en fait, qui se posent sur comment améliorer la performance essentiellement ou comment optimiser la performance. Et on essaie d'y répondre, mais de manière très appliquée au terrain. C'est principalement la différence qu'on fait avec la recherche fondamentale, où on essaie plutôt de produire de la science. Nous, on part d'une question de terrain et on essaie d'y répondre de manière très pratique. Et après, il y a aussi tout ce qui est accompagnement autour d'un outil, par exemple, c'est-à-dire former les entraîneurs à utiliser de nouveaux outils pour mesurer des variables qui peuvent leur être utiles, comme des forces produites, comme mesurer où est-ce que le joueur ou la joueuse regarde. Et après, il y a aussi une dimension sur tout ce qui est transmission de connaissances. Donc sur un thème particulier, on va organiser différents événements pour apporter de la connaissance à des entraîneurs qui sont en demande spécifiquement sur un sujet particulier, sur lequel on fait intervenir des experts la plupart du temps.
Quand on dit accompagner la performance, ça veut dire quoi?
Alors ça peut être très varié, variable. Peut-être je vais vous donner quelques exemples. On a travaillé il n'y a pas très longtemps avec l'entraîneur de la boxe française ici, parce qu'il y a un Pôle France boxe française, qui lui est responsable de toute la détection du côté fédéral, sur le secteur fédéral. Et donc il se demandait quels tests étaient pertinents pour détecter les jeunes qui pourraient être performants demain. Donc on a réfléchi avec lui à une batterie de tests, on a mis en place des outils qui lui permettaient de mesurer des vitesses, par exemple, sur des lancers, ou des vitesses de frappe, ou des niveaux de force haut du corps et bas du corps. Donc il y a toute la partie détection, par exemple, qui fait partie du processus. Et après, sur les jeunes qu'on a ou sur les sportifs qu'on a ici au Krebs, il y a tout ce qui est optimisation de performance. Et par exemple, sur du beach volley où le saut est une tâche qui est vraiment une tâche motrice très importante pour la performance, on peut analyser de manière très précise un saut avec quelle est la durée de la phase de descente, quelle est la durée de la phase où on pousse, par exemple, quelle force il produit sur chacune de ces phases, quel est le temps pendant lequel il pousse qui lui permet de rester le temps en fait de suspension en l'air et qui lui permet d'atteindre une telle hauteur. Est-ce qu'on peut faire ça de manière plus rapide et sauter plus haut? Est-ce que si on saute plus haut, on passe pas plus de temps au sol et du coup, est-ce que ça nous met pas en retard après sur la situation de jeu? Voilà, c'est très varié, avec aussi une approche cognitive de la performance qui est de quantifier par exemple où est-ce que le joueur ou la joueuse regarde pour savoir quels sont les processus qui sont sous-jacents de la prise de décision, qui vont amener à prendre une bonne décision ou une mauvaise décision par exemple.
Donc là sur le beach volley, vous êtes vraiment en lien et en recherche actuellement pour essayer de leur permettre de gagner en stratégie?
Oui, voilà, l'idée c'était de caractériser le saut. C'est un athlète, c'est venu d'un athlète et de son préparateur physique là, du staff France, donc c'est un joueur qui a une équipe de France senior, et sa question c'était comment je m'organise pour sauter à cette hauteur-là, et finalement aussi comment faire mes choix d'entraînement. Et nous, en fonction des différentes variables qu'on recueille, on leur présente ces variables-là, qu'on modélise. Et ça nous permet d'orienter les discussions en disant, bon ben nous, on a plutôt vu ça ou on a plutôt vu ça. Est-ce que ça colle avec le terrain? Et est-ce que ça pourrait être pertinent qu'il passe plus de temps à préparer sa phase préparatoire du saut avant l'envol, par exemple? Ou est-ce que s'il passe plus de temps, ben vous, ça colle pas avec l'impératif que vous avez de se déplacer, de sauter en une demi-seconde, par exemple, parce qu'il y aurait trop de temps qui serait alloué à la préparation du saut? Et c'est aussi, il y a des ratios et des indicateurs qu'on a qui nous permettent de savoir est-ce que la personne, il faut plutôt l'orienter vers un entraînement en force ou plutôt un entraînement en vitesse, et ça permet de discuter de ça avec le préparateur physique par exemple.
Est-ce que vous avez justement des exemples où la recherche, parce que j'imagine que ça aboutit pas forcément toujours, est-ce que vous avez des exemples où ça a bien marché, d'autres exemples où au contraire vous vous êtes dit là les recherches qu'on a menées n'ont pas forcément abouti?
Un exemple qui a bien marché sur tout ce qui était prise d'informations visuelles, on a travaillé il y a quelques années avec le pôle baseball, où eux ont besoin d'interpréter très tôt les trajectoires de balles pour savoir s'ils doivent battre la balle ou non. Et on a fait ce qu'on appelle des pré-tests, donc des tests vraiment préalables pour savoir quel était le pourcentage de réussite des batteurs au sein du pôle France. Et sur le pourcentage de réussite, à savoir est-ce qu'il devait battre la balle ou non, on était autour du ratio de chance. Donc 50%, il prenait la bonne décision, 50%, il y avait une mauvaise décision. Donc c'était un taux de chance. Et nous, on a enregistré des vidéos de lancers de balles qu'on a coupées à différents moments, à 33% de la trajectoire, 66% de la trajectoire, ou des vidéos où on laissait la trajectoire de balle en entier. Et on les a entraînés sur des vidéos comme ça. Et en plus, ils avaient une rééducation visuelle avec des orthoptistes, plus différents exercices de lancer rattrapé de balles avec des lunettes à occultation, où donc on occultait le champ visuel à certains moments. Et quand on a fait le post-test pour le groupe qu'on a entraîné deux fois par semaine pendant 6 semaines, ils sont passés de 50% de réussite à 80% de bon jugement de trajectoire de balles. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui a assez bien marché. Et le volley nous a aussi posé cette question sur comment améliorer la lecture de la trajectoire de balle en réception de service. C'est quelque chose qu'on mène depuis plusieurs années. Et ça a été très progressif. Et à chaque fois qu'on apportait une réponse, finalement, ça a amené à une autre question. Donc on a caractérisé l'information que prenait une novice versus une experte, où regardait l'experte qui l'amenait à bien anticiper la trajectoire de balle et à faire une réception correcte. Et une fois qu'on a identifié ça, on s'est demandé si finalement on pouvait l'entraîner. Donc on a essayé de l'entraîner à partir de vidéos l'année dernière. Et là, par exemple, c'est un résultat un petit peu plus contrasté, où ça a bien marché sur deux joueuses sur les 7, par exemple. Il y en a 2-3 pour qui ça n'a pas du tout marché, et d'autres pour qui, en fait, on pensait que ça avait marché dans nous, notre pré-test et notre post-test, qui sont quand même isolés du terrain. Par contre, quand on regarde les statistiques en match, c'était pas concrétisé sur une tâche vraiment compétitive.
Vous avez un lien vraiment du coup de retour entre les entraîneurs et les athlètes. Comment justement vous faites des réunions de travail? Comment ça se passe au quotidien?
Alors, au début, on faisait beaucoup de... Moi, j'allais voir chacun des pôles pour me présenter, dire quel était mon métier. Et j'allais beaucoup questionner. Et aujourd'hui, je suis assez bien identifiée dans le paysage Krebs. Et l'équipe aussi s'est beaucoup élargie, parce qu'on a maintenant des conseillers au niveau de performance, dont le travail est aussi d'aller rencontrer les structures et d'aller... essayer de mesurer leurs besoins et d'y répondre. Et quand ce besoin touche à de l'accompagnement scientifique de la performance, ils me remettent en lien derrière, surtout quand c'est des structures extérieures. Mais les structures qui sont intérieures au CREPS, on est assez bien identifiés. Donc maintenant, j'ai plus besoin vraiment d'aller les voir, de poser les questions. Ça se fait un peu au long cours et quand les entraîneurs ont besoin, ils viennent nous questionner. Et donc, il y a des réunions. Alors, ça dépend un peu de l'ampleur du projet, mais quand c'est pour mettre en place un outil et faire des mesures sur un instant T, on est capable de sortir un outil avec un collègue, Maxime, qui travaille avec moi. On sort l'outil et on montre à l'entraîneur en direct. Et après, on fait des comptes rendus qu'on modélise et qu'on lui envoie. Et alors, il y a déjà ça en premier temps. Et il y a toujours aussi un temps de retour en direct avec l'entraîneur. Donc, on fait passer un compte rendu, en général, par mail. Et on prend rendez-vous tout de suite après avec lui pour lui expliquer. Et après, sur ce qui est compte rendu aux athlètes, ça dépend en réalité. Des fois, il y a des entraîneurs qui nous disent « faites un retour aux athlètes ». Et on le fait. Mais alors, ils nous demandent des fois de modéliser différemment pour que ce soit aussi un petit peu plus accessible. Ou des fois, c'est l'entraîneur qui fait le relais directement avec ses athlètes. Ça dépend des structures. Et voilà, donc on fait un compte rendu, ça permet des fois d'orienter un peu mieux, ou alors ils retravaillent un petit peu et quand ils estiment qu'ils ont fait un cycle d'entraînement qu'ils voudraient réévaluer, ils refont appel à nous. Et souvent c'est en débriefant, en rééchangeant que ça fait évoluer la réflexion et qu'on enchaîne sur d'autres tâches et d'autres perspectives.
Est-ce que l'approche scientifique, la science, on va dire, aide à gagner plus de médailles ?
On l'espère. En tout cas, la France là, s'inscrit vraiment pleinement dans cette dynamique. Après, c'est pas la science qui va faire gagner, je pense, vraiment une médaille si l'athlète part de zéro. Mais l'idée, c'est que ça permette de grappiller quelques centièmes ou quelques centimètres qui font la différence à très haut niveau. On estime que voilà, notre rôle, il est plutôt sur de l'optimisation de performance, mais que tout ce qui est vraiment performance avant, ce n'est pas nous qui le produisons. Ça reste l'athlète qui produit la performance, entouré par son entraîneur, par son environnement. Et nous, on vient jouer vraiment sur quelques centièmes, quelques petits pourcentages d'optimisation de la performance.
Est-ce qu'on peut dire qu'on fabrique les athlètes ?
C'est une question intéressante. Qu'on les fabrique, je dirais pas ça. Parce que je pense qu'un athlète arrive avec ses caractéristiques individuelles et ses qualités intrinsèques. Je pense que c'est l'environnement qui prend part autour de lui et que c'est dans les interactions qu'on arrive à optimiser et à accompagner au mieux. Fabriquer, je n'utiliserai pas ce mot, mais c'est vrai que je pense qu'on joue un rôle dans l'accompagnement quotidien et sur le long terme.
Est-ce qu'un athlète peut réussir seul, à contrario ?
Et est-ce qu'un athlète peut réussir seul ? Ouais, c'est une bonne question, ça aussi. Je pense que seul, non, parce qu'il y a tout un système en France où finalement la fédération est quand même présente avec des staffs nationaux qui sont en place. Mais aussi, on se rend compte que les athlètes qui réussissent bien sont les athlètes qui arrivent à construire aussi leur système et qui mettent en place un environnement de confiance avec des gens qui leur sont... avec des gens qui leur sont proches. Et il y a des athlètes vraiment autodidactes, ça arrive. Mais il y a forcément un moment où ils sont rattrapés, soit détectés, soit ils sont en structure, ou voilà, ils intègrent le système fédéral. Mais moi, je pense que oui, je pense qu'il n'y a pas une histoire du champion et qu'il y a beaucoup de trajectoires différentes, en tout cas.
Et avec Dominique Hernandez, vous travaillez beaucoup ensemble ?
Avec Dominique, on travaille ensemble beaucoup, au quotidien. Parce que Dominique est quelqu'un de curieux, qui se pose des questions. Et vous allez voir, c'est un profil qui, en fait, il est toujours motivé pour essayer de cerner le plus de choses possible, essayer de comprendre le plus de choses possible, et qui se pose beaucoup de questions. Et c'est quelqu'un, oui, qui est dans la démarche et dans la recherche en permanente de nouveaux outils, de nouveaux procédés d'entraînement. Donc c'est quelqu'un de vraiment intéressant là-dessus. Et on travaille beaucoup ensemble sur des thématiques qui sont assez différentes, sur des thématiques qui vont du monitoring de ces athlètes et se poser des questions sur leur état de forme, sur du suivi de l'entraînement quotidien où il met en place de nouveaux procédés d'entraînement, par exemple sur de l'isométrie, peut-être qu'il vous en parlera. Et pour mesurer sans cesse les effets à l'entraînement, on amène des outils sur le terrain où on lui prend des mesures et où on quantifie. Et le premier travail qu'on a fait avec Dominique, et d'ailleurs il avait commencé avec mon prédécesseur, c'était avant que j'arrive. En réalité, c'est quelqu'un qui a une carrière assez exceptionnelle et qui a beaucoup de longévité. Et il se demandait si ce qu'il observait, lui, à l'œil, en fait, les données vraiment biomécaniques reflétaient ce que lui voyait. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans importer un peu les sciences au sens vraiment biomécanique. Et on travaille beaucoup là-dessus. Mais avant ça, il vous en parlera aussi, il avait fait de gros travaux, sur tout ce qui était aspect psychologique et suivi psychologique de ses athlètes. Voilà. Alors que moi, je suis plutôt sur... Là, ici, on est plutôt sur les aspects biomécaniques, prévention des blessures, optimisation de performance. Et on commence à s'ouvrir sur des sciences sociales de type sociologie. Mais il y a dans le CREPS un pôle avec deux psychologues et préparatrices mentales ici.
Et donc, juste pour l'isométrie, pour ceux qui ne savent pas, ou la biomécanique, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'isométrie, c'est un régime de contraction qui est particulier, où il n'y a pas de mouvement visible, il n'y a pas de changement d'angle articulaire, par exemple. Donc, on va se mettre sous une barre, parce que Dominique travaille beaucoup comme ça, soit en squat, soit en fente, et en fait, on bloque la barre, et l'athlète force au maximum et pousse, mais la barre est bloquée. Donc, nous, on va mesurer, en fait, avec des plateformes de force qu'on met sous ses pieds, la force qui est développée au sol, et que l'athlète est capable de produire, mais voilà, dans une condition statique, isométrique égale statique. Biomécanique, c'est un champ qui est assez large, mais l'idée, c'est de... Alors là, par exemple, il y a des plateformes de force, c'est de mesurer des forces, mais c'est plutôt de caractériser un mouvement. Et ça, ça peut aller sur la décomposition gestuelle, mais plutôt la production de force. Et après, on peut remonter avec des forces qui sont produites à chaque étage articulaire, par exemple. Mais nous, on a une salle qui est vraiment à la base faite autour de la biomécanique, où on a des caméras à haute vitesse et où on va analyser la cinématique d'un geste et voir quelles sont les forces qui sont produites au sol.
Donc Dominique Hernandez, cadre technique national en athlétisme depuis les années 90.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous êtes venu à être entraîneur, votre parcours de sportif également ?
Ben moi, je suis prof de PS à la base et il s'avère que je suis rentré en équipe de France l'année où j'ai eu le CAPES. Donc, j'ai entraîné pendant que j'étais prof. Donc, j'avais des scolaires. Et puis, j'ai été très rapidement, au bout de 6 ans, 7 ans, j'ai été nommé ici au CREPS. Donc, j'ai quitté l'éducation nationale pour rejoindre le ministère des Sports. Je me suis retrouvé d'ailleurs ici au service médical sur l'évaluation, tout en étant encore athlète de haut niveau. Donc, les missions que j'avais à ce moment-là étaient basées sur la préparation physique. Donc, naturellement, je faisais de la prépa physique avec les gens du CREPS. Et puis derrière, par contre, j'entraînais. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des résultats très rapides.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos résultats pour les gens qui nous écoutent ?
Alors, sur le plan athlète, j'ai un athlète qui a fait quatrième au jeu sur le saut en longueur. Et puis, j'ai eu quelques athlètes qui ont été dans les meilleurs mondiaux sur le saut en longueur, d'ailleurs. D'ailleurs, je suis le seul entraîneur en France à avoir eu plus de... J'ai 7 sauteurs qui ont déjà fait plus de 8 mètres. L'an dernier, j'ai eu un sauteur en hauteur, un franco-suisse, qui a été vice-champion du monde en salle, avec 2,33 m. Puis après, j'ai fait pas mal de préparation physique, puisque j'étais le préparateur physique du Stade Toulousain de 1994 à 2008. Voilà, puis Franck Addison et Wilfried Ford, qui sont champions olympiques en canoë-kayak, je leur fais la prépa. Il y a eu Solène Figuès également, qui a été championne du monde natation et médaille au jeu. Enfin voilà. Donc j'ai eu pas mal d'autres sports que l'athlète.
Alors vous travaillez souvent avec Marine. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, en tant que coach, qu'est-ce que vous apporte le côté scientifique ?
Disons que déjà l'entraînement, si on prend les critères et les termes de la Fédération internationale, l'entraînement est un art et c'est une science. Donc si on en reste strictement à ces mots-là, effectivement, ça veut dire que l'entraînement va permettre d'utiliser tous les moyens physiologiques, anatomiques et scientifiques qui vont permettre d'améliorer le potentiel physique d'un athlète. Donc voilà, donc Marine étant sur le CREPS sur cette mission-là, donc je la sollicite régulièrement pour essayer d'améliorer le côté un peu technique de notre spécialité.
Vous, en tant que coach, en regardant les athlètes s'entraîner, est-ce que justement on pourrait pas se dire vous avez suffisamment d'expérience d'entraînement avec les athlètes, vous avez vous-même été un athlète, est-ce que vous pouvez pas vous dire que cela suffit en fait pour optimiser la performance des athlètes?
Non, la remise en question fait partie entièrement de l'entraînement, donc que ça marche ou que ça marche pas, on est tout le temps en train de se remettre en question. De plus, les façons de travailler d'il y a 40 ans ne sont pas forcément les mêmes. Bon, moi, je suis entre guillemets un vieux coach, donc c'est toujours très bien de faire appel à des jeunes coachs performants qui nous permettent, nous, d'évoluer énormément. Notre expérience, elle va nous servir surtout à savoir utiliser ce que les jeunes nous donnent.
Ça vous change du coup la relation aujourd'hui, quand vous dites vous êtes un vieux coach, vous avez une évolution dans votre manière d'entraîner les athlètes ?
Oui, j'étais beaucoup plus strict au départ. Là, on est beaucoup plus souple, on joue beaucoup plus sur ce qu'attendaient les athlètes. Avant, avec les réseaux sociaux, les athlètes sont au courant de beaucoup de choses. Il y a des techniques d'entraînement qui sont diffusées au travers de tous les réseaux sociaux. Donc les athlètes sont toujours en train de venir nous dire « Attention, mais ils font ça ailleurs ». Et donc nous, on essaie systématiquement de se justifier. La grosse différence par rapport à avant, c'est qu'avant, les athlètes posaient des questions, mais ils écoutaient. Maintenant, ils posent toujours des questions, mais ils remettent en question. Il faut toujours justifier.
Et vous, comment vous prenez ça en tant que coach ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du coup avancer sur votre manière de penser vos entraînements, justement, qui vous remet parfois en question ? Ou vous vous dites, bon, ils vont un peu trop loin, les athlètes d'aujourd'hui. J'aimerais bien qu'ils m'écoutent un peu plus.
Bon, y a toutes les réponses à votre question. Y a des moments, c'est usant, mais s'ils se posent les questions, c'est que peut-être il faut leur répondre. Moi, je n'ai pas forcément toutes les questions, qu'on soit très clair. Les scientifiques peuvent nous amener des réponses. De toute façon, quand je sollicite Marine, c'est qu'à un moment donné, j'ai quelque chose derrière la tête. Donc automatiquement, soit c'est une question d'un athlète, soit c'est moi qui me pose une question par rapport à un nouvel appareil qui arrive ou à une nouvelle façon de travailler. Donc on essaie systématiquement de travailler là. C'est vrai qu'il y a des moments, je préférerais qu'ils me laissent un peu tranquille.
Là, sur la préparation des Jeux 2024, vous avez des programmes de recherche avec Marine, justement, pour optimiser les performances de vos athlètes ?
Oui, alors il y en a un, effectivement. On est en train d'essayer de travailler sur de nouvelles façons de travailler en musculation. Parce que les athlètes sont quand même très, très forts physiquement. Et j'avoue que moi, maintenant, avec l'âge, il y a des moments où j'ai un peu plus peur que ce que je n'avais quand j'étais plus jeune. Et donc, sur le travail du muscu, je l'ai un peu sollicité sur d'autres méthodes qu'utilisent également les étrangers, que j'utilise également sur un athlète que j'ai eu là, qui est vice-champion du monde cet hiver. Et ce sont des processus qui marchent, mais en fait, ils marchent, mais on n'en connaît pas forcément, du moins, j'en connais pas les causes ou les raisons. Donc, on va essayer de voir sur ce type d'étude. Alors, c'est vraiment une étude qui vient de commencer. Et puis, pour l'instant, on en est surtout à la prise de données. Mais bon, moi, c'est vrai que j'ai souvent beaucoup d'idées, donc je la sollicite assez souvent. Et puis, on essaie après de faire le tri. Il y a des choses où elle pourra me répondre, des choses pour l'instant, pas répondre.
C'était Rencontre avec Marine Gargagli et Dominique Hernandez, l'apport scientifique dans le coaching sportif. Un entretien réalisé par Agnès Gontier. Marine Gargagli est accompagnatrice scientifique de la performance au Krebs de Toulouse, ancienne judoka et haltérophile. Dominique Hernandez est cadre technique en athlétisme, 5 fois champion de France en saut en hauteur. Cet entretien vous a plu ? Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr. Résonance Sonore, un média de proximité en Occitanie.